Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 88.9 Radio Sainte-Baume. Nous sommes donc en présence de monsieur Alain De Canis, candidat au municipal de Saint-Maximin, qui s'est maintenu bien sûr au second tour. Je rappelle le résultat de monsieur De Canis pour ce premier tour, c'était 19,96%. Alors nous allons démarrer donc avec monsieur De Canis cette demi-heure qui lui est consacrée en ce jeudi. Alors on va parler un petit peu de propos sur l'environnement. Qu'est-ce que, durant cette mandature des 6 ans à venir, vous allez proposer côté environnement aux Saint-Maximinois ?
Bonjour, permettez-moi tout d'abord de remercier les 1371 électeurs qui nous ont fait confiance ce dimanche dernier et qui nous permettront par là même d'être présents lors du deuxième tour dimanche. En matière d'environnement, pour répondre à votre question, nous nous engagerons à mettre en œuvre un agenda 21 local qui est, pour ceux qui ne connaissent pas ce type de document, un document basé sur l'élaboration d'un diagnostic concerté visant à aboutir sur des propositions d'action stratégique associant l'environnement, l'économique et le social. Nous proposerons par des actions simples telles que, par exemple, la résolution définitive de la pollution de l'argent par la station d'épuration de la Méronne, je l'évoquerai tout à l'heure. La construction de bâtiments publics respectant la norme haute qualité environnementale, dite norme HQE, l'utilisation d'ampoules fluocompactes dans tous les locaux communaux, développer un programme pour réduire la facture énergétique de la commune, lancer une campagne d'information basée sur le slogan « Économisons l'eau, un bien si précieux », équiper progressivement la commune de véhicules propres, créer un éco-point conseil afin de centraliser en un même lieu toutes les informations sur les matériaux de construction écologiques, ainsi que octroyer une plus large part aux productions locales dans les cantines scolaires. Donc ce document sera préparé et voté dans les premiers mois qui suivront notre élection. Je crois qu'il y a déjà une commune qui s'est engagée dans le même sens dans le Var, il s'agit de la commune de Sanary. Nous serons probablement la seconde à nous engager dans cette voie. Alors en matière d'environnement, il y a un autre sujet que je voudrais évoquer également. Il s'agit des stations d'épuration. Depuis plusieurs décennies, les eaux usées de Saint-Maximin sont traitées par la station d'épuration de Méronne. C'est une station qui repose sur un procédé d'épuration assez ancien et dont on a vu les dommages qu'il pouvait causer à la rivière de l'Argent et plus particulièrement au mois d'août qui s'est traduit un peu par une catastrophe écologique, où on a tué à peu près toute la flore et tous les poissons qui pouvaient rester dans la rivière. Bon, je pense que c'est quelque chose d'assez inquiétant. La station d'épuration va passer de 10 à 16 000 équivalents habitants rapidement, puisque des travaux vont être terminés. Mais le procédé restant le même, je ne pense pas que ça change beaucoup les dangers qui vont être occasionnés sur la faune et la flore de la rivière. C'est la raison pour laquelle nous préconisons, au-delà de cette station, la construction de micro-stations reposant sur le principe de filtres plantés de roseaux, des stations de 1000-1200 équivalents habitants de taille beaucoup plus réduite, qui, implantées judicieusement sur le versant sud de Saint-Maximin, permettraient de desservir un grand nombre d'habitants qui ne pourront jamais être raccordés à la station de Méronne, tout simplement parce qu'elle ne se trouve pas sur les mêmes bassins versants. Donc en gravitaire, on ne pourra jamais raccorder ces gens-là à la nouvelle station, quelle que soit sa capacité. Mais de plus, ce sont des stations qui sont beaucoup plus écologiques et qui ne coûtent pratiquement rien, ni en entretien, ni en matière d'énergie. Il en existe aujourd'hui dans les communes de Pourcieux, du Pandops, de Rougier, et j'engage tous ceux qui nous écoutent à aller se rendre compte eux-mêmes sur place. À quelques mètres, il n'y a aucune odeur et l'eau qui est rejetée est tout à fait propre. Donc on aimerait pouvoir, à la suite bien entendu d'une étude relative au sens d'écoulement des eaux, pouvoir implanter un certain nombre de stations de ce type sur tous les versants sud, afin de raccorder le maximum de personnes au réseau d'assainissement collectif, mais aussi de limiter tout ce qui est problème de pollution dans l'argent qui n'en a plus besoin.
Alors, et vous parlez de l'eau justement, alors je vous coupe un petit peu. L'eau aussi, ça fait partie de l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer? On parlait justement de l'eau tout à l'heure. La nappe phréatique est en train de s'appauvrir en ce moment. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous avez une solution aussi à apporter pour que tous les citoyens de Saint-Maximin puissent avoir de l'eau même en été?
Aujourd'hui, l'essentiel de l'alimentation anneau de la commune, c'est pas l'essentiel, c'est même la totalité, provient de deux forages qui se trouvent à Sceaux. Ces deux forages puisent dans la même nappe phréatique qui, pour la première année, a diminué dans des proportions assez sensibles. Et si les conditions de sécheresse se poursuivent dans les années à venir, on a tout lieu d'être inquiet quant à l'alimentation en eau de la commune. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il serait souhaitable de s'orienter vers le canal de Provence, de créer une station de potabilisation qui pourrait desservir Saint-Maximin, mais aussi un bon nombre de communes environnantes qui sont intéressées, et pouvoir la conserver au moins dans un premier temps en station de secours pour être sûr de ne jamais être en rupture d'alimentation en eau pour la commune, notamment l'été.
Est-ce que ça va faire des coûts supplémentaires pour le citoyen, toute cette mise en place ?
Probablement, c'est quelque chose qui devra être chiffré, qui devra être examiné sur le long terme, et dans le cadre de la communauté de communes, et peut-être même au-delà, puisqu'il y a aussi des communes aujourd'hui qui sont très proches de Saint-Maximin, qui seraient intéressées par la mise en œuvre d'un procédé de ce type. Et pourtant, il faudra bien y arriver. Si la nappe de Sceaux n'est plus en mesure d'alimenter la commune, Il va bien falloir trouver des solutions d'urgence rapidement. Bon, tout ça, ça nous amène à un côté un peu technique. Mm-hmm. Bon, les coûts ne pourront être évalués qu'après des études assez fines faites par des experts.
D'accord. Ok. Excusez-moi si vous voulez reprendre sur l'environnement encore, si vous avez d'autres
sujets. Il y a un deuxième point qui me tient particulièrement à cœur en matière d'environnement, C'est celui du traitement et de la collecte des déchets ménagers.
Oui. Mais ça, je crois que la collecte des déchets ménagers, vous n'êtes pas trop... malheureusement, il y a la communauté des communes qui est plutôt responsable pour ça.
Absolument, c'est une compétence a été octroyée à la communauté de communes, mais c'est quelque chose qui touche de très près la plupart des électeurs, notamment en matière d'environnement. Et comme les délégués communautaires ne sont pas élus au suffrage universel, on est bien obligé de traiter aussi dans le cadre des élections municipales un certain nombre de sujets qui sont des compétences communautaires. Alors, notamment en ce qui concerne la collecte et le traitement des déchets, nous souhaiterions, et je dis bien nous souhaiterions entre guillemets, parce que c'est, effectivement c'est une compétence communautaire, donc on n'aura pas tout pouvoir pour changer les choses. De plus, il y a probablement des contrats qui ont été passés, mais je voudrais donner quand même les grandes orientations vers lesquelles nous souhaiterions tendre. Nous souhaiterions se diriger vers un système de collecte avec des puces sur les containers qui permettent en fin d'année de mesurer quelle est la quantité réelle d'ordures ménagères qui a été produite par chaque citoyen, et que chacun paie une facture proportionnelle au volume d'ordures ménagères qu'il a réellement déposé dans son conteneur, tout au moins pour tous ceux qui habitent en habitat pavillonnaire. Alors pourquoi cela ? Eh bien pour inciter chacun à pratiquer de façon beaucoup plus large le tri sélectif. On pourrait également, toujours dans la même idée, distribuer contre caution à chaque personne ou chaque foyer qui habite en habitat pavillonnaire des composteurs individuels afin de limiter là encore le volume d'ordures ménagères réellement produit.
Alors ça, c'était pour l'environnement. C'est bien entendu, on a survolé l'environnement, mais il y a des sujets beaucoup plus pointus sur ce sujet justement de l'environnement. On va parler maintenant un petit peu du social et des associations. Qu'est-ce que vous comptez réaliser durant votre mandat auprès des associations de toutes sortes, que ce soit culturelles ou sportives. Comment vous allez vous retrouver en face de ces associations et qu'est-ce que vous allez leur répondre, leur dire ?
Tout au long de cette campagne, j'ai rencontré de nombreux présidents d'associations sportives avec qui j'ai pris rendez-vous. La plupart m'ont accueilli dans les locaux qu'ils utilisent dans le cadre de leur association et j'ai pu me rendre compte combien nombre d'entre eux n'étaient pas adaptés, étaient vétustes. Je pense notamment aux anciens locaux de la société Ricardi qui était une usine d'embouteillage. Je pense aux locaux également qui était autrefois occupé par la société Sicardi, qui était une société de vente de matériaux. J'ai pu constater avec les responsables associatifs à quel point ces locaux, qui dans un premier temps ont permis de pouvoir pallier aux besoins des associations, n'étaient plus du tout adaptés aujourd'hui. En même temps, la construction d'un pôle associatif pourrait coûter fort cher et peser largement sur les finances de la commune. C'est la raison pour laquelle je préconise de faire une étude globale des sommes que l'on pourrait retirer en réalisant des opérations de promotion immobilière sur l'ensemble de ces parcelles, En même temps chiffrer quelle serait la construction d'un véritable pôle associatif qui pourrait être imaginé et élaboré en collaboration avec les associations qui en seront ensuite les utilisatrices et voir si on peut arriver à équilibrer une opération. Je pense que dans ce cadre-là, si c'était une opération blanche, on pourrait très bien imaginer céder tout l'espace qui est occupé aujourd'hui par à la fois les services techniques et les associations dans les anciens locaux Ricardi, les utiliser pour y faire une promotion immobilière et récupérer l'argent pour construire un véritable pôle associatif, pourquoi pas à côté de la piscine.
D'accord, ça c'est pour les associations, c'est pour les installer, mais est-ce que vous voyez autre chose aussi pour ces associations? Est-ce que ces associations vous ont déjà sollicité pour des trucs très particuliers?
Alors effectivement, il y a un point qui revient souvent concernant les associations, mais ça n'est pas que les associations, c'est aussi un point général à Saint-Maximin, c'est que nous avons aujourd'hui 16 000 personnes qui vivent disséminées sur la quasi-totalité du territoire et qu'il est très difficile de toucher, de rencontrer. On s'en est bien rendu compte d'ailleurs dans le cadre de la campagne électorale. Pour les associations, c'est un problème un peu du même type. Comment arriver à se faire connaître auprès des 16 000 personnes ? Alors, j'ai suggéré, et je crois que c'est quelque chose qui pourra être utile à un bon nombre d'associations, la mise en œuvre d'un site internet qui soit un véritable journal d'information. C'est-à-dire qu'il soit mis à jour quotidiennement, voire deux fois par jour, sur lequel on puisse trouver à la fois les délibérations du conseil municipal, ce qui permettrait à chaque citoyenne de vivre de près la vie communale, sur lequel on pourrait également indiquer toutes les démarches que l'on peut avoir à faire pour l'obtention de tel ou tel document administratif. On pourrait y trouver également la liste de toutes les associations, mais pour le faire vivre au quotidien, on peut très bien imaginer un Saint-Maximinois qui travaille à Rousset, qui le lundi matin arrive sur son ordinateur et puisse y trouver quel est le résultat de l'équipe de foot de la veille, quel est le film qui sera projeté le mercredi. On peut imaginer y trouver au quotidien toutes les informations sur la vie locale. Je crois qu'il est indispensable que pour qu'un site soit visité, qu'il soit mis à jour quotidiennement. Alors, en ce qui concerne les associations, beaucoup souffrent d'un déficit d'information. Je pense qu'il serait important que chacune d'elles ait un site internet. Celles qui n'en ont pas les moyens, on pourrait très bien les aider. Et à partir du site municipal, renvoyer sur le site de chacune des associations pour que les gens puissent prendre connaissance de tout ce qui se passe régulièrement à Saint-Maximin.
Dans chaque association.
Dans chaque association.
Sans oublier notre radio aussi qui participe entendu. Énormément à l'information tout au long de l'année. Justement, on parle de radio. Comment vous voyez la radio, Radio Sainte-Baume, ici même durant votre mandat? Est-ce que vous allez l'utiliser, cette radio? Est-ce que vous allez travailler avec cette radio qu'est-ce que vous allez utiliser vraiment ce média qui est quand même important, qui est chez vous à Saint-Maximin, quoi?
Absolument, je crois qu'il faudra utiliser tous les canaux d'information pour faire la promotion de la commune. Je parlais tantôt d'un site internet, c'est un des moyens, mais je crois que la radio est aussi un moyen important, surtout comme vous le soulignez, lorsqu'on a la chance d'avoir une radio locale. Je pense qu'il faudrait se servir de façon beaucoup plus intense de la radio. Et quand je dis s'en servir, c'est pas à des fins électorales, mais pour faire la promotion de tout ce qui peut se passer à Saint-Maximin. Je peux m'engager, si nous sommes élus, à suivre largement cette voie.
Petite parenthèse pour ce qui est de la radio. On va continuer à parler sur tout ce qui intéresse énormément nos concitoyens saint-maximinois. On va parler du projet. Tiens, pour le développement du centre-ville. Alors, on en a beaucoup parlé du centre-ville. Tous les candidats avant le premier tour en ont parlé. On va encore rappeler un petit peu ce que vous préconisez pour le centre-ville parce qu'on sent que les maximinois y tiennent énormément à leur centre-ville. Parce que c'est un site et un lieu touristique avant tout aussi et c'est un lieu de vie très agréable. Alors il a évolué depuis quelques années, j'imagine. Moi qui suis en dehors de cette ville depuis 3-4 ans, qui suis ici, qui fréquente Saint-Maximin, a découvert une évolution. Est-ce que vous allez continuer donc dans votre mandat à suivre les anciennes promesses ou de vos anciennes du maire précédent, ou vous avez encore votre touche à vous, monsieur De Canis?
La caractéristique aujourd'hui de Saint-Maximin est d'avoir un grand nombre d'habitants disséminés sur la quasi-totalité du territoire et qui vivent comme pratiquement autant d'électrons libres, qui travaillent ailleurs, qui souvent consomment ailleurs et qui n'ont que très peu de points communs. Je crois qu'il est grand temps, si on ne veut pas que notre commune sombre définitivement dans ce qu'on appelle les cités dortoirs, il est grand temps de recréer un lien social entre tous ces individus. Ce lien social ne peut se faire, à mon sens, que dans le centre-ville. Il faut que tous les Saint-Maximinois se réapproprient le centre-ville, au-delà de l'aspect touristique ou économique pour les commerçants qui y sont établis. Alors, une fois que l'on a dit cela, on n'est pas beaucoup avancé, car ça peut un peu se ranger au niveau des vœux pieux. Je pense que pour que les gens reviennent dans le centre-ville, il faut à la fois qu'ils soient agréables et qu'ils soient attractifs. Un centre-ville agréable ne peut être que piéton. Lorsqu'on se balade un peu partout à travers la France, lorsqu'on s'arrête dans une commune, eh bien on a envie de se promener lorsqu'on rencontre des espaces piétons. Lorsqu'on se retrouve au milieu des voitures, on a moins envie de séjourner longtemps. Donc je pense qu'il est impératif de traiter la quasi-totalité du centre-ville de façon piétonne. Alors en priorité, le boulevard Bonfils. Le boulevard Bonfils devrait être aménagé de façon à ce qu'il y ait des grands trottoirs sur les parties latérales des façades des maisons jusqu'au platane et ne conserver à la circulation, à caractère de rue, que la partie centrale. Bien entendu, cela devra se faire en même temps que la dernière partie de la déviation. De la même façon, nous souhaitons aussi traiter de façon piétonne la quasi-totalité de la place Malherbe, à l'exception de la route Barjol. Et progressivement, de la même façon, traiter aussi en espace piéton la quasi-totalité des rues et des places du centre-ville. Alors tout ce projet va supprimer environ 200 places de parking. Et aujourd'hui, il n'est pas facile de retrouver des places de parking en centre-ville. En surface, il n'y a plus de place. C'est ce qui nous a amené à réfléchir à la réalisation d'un parking souterrain sous l'actuel parking des Cerisiers. Alors, nous avons rencontré, il y a déjà près d'un an, des responsables du groupe Vinci, et l'aménagement d'un parking souterrain coûte assez cher. Ceci dit, nous nous sommes orientés et nous avons été plus particulièrement intéressés par ce qui s'est passé à La Valette il y a quelque temps. Depuis 2 ans, la commune a aménagé un parking souterrain sur un grand espace situé en centre-ville. Cette commune est dirigée par un sénateur-maire, Christian Hummel, qui est vice-présidente du conseil général, donc on peut faire confiance à ses propos, qui nous dit, je la cite, « Le coût du parking est englobé dans la concession d'aménagement. » Le bilan global permet de dégager des bénéfices dus à la promotion des logements. Ces bénéfices sont réintégrés dans le bilan qui est toujours équilibré. Grâce à ces opérations, le parking ne représente aucune charge financière pour le contribuable. Alors, je me suis rendu sur place. C'est un parking de 4 niveaux qui comporte 400 places entièrement gratuites et qui se trouve en plein cœur de ville de La Valette. Alors, si cela est réalisable à La Valette, je me dis qu'on pourrait tout aussi bien le faire à Saint-Maximin. Alors en fait, cela consisterait à aménager en surface sur l'actuel parking des Cerisiers une grande galerie commerciale où on peut imaginer aussi tout autour avec un grand espace au milieu, on peut imaginer des boutiques et au premier étage des appartements, des bureaux. Et la promotion de l'ensemble immobilier en surface viendrait couvrir les frais de la construction du parking souterrain. Donc voilà un exemple d'aménagement qui pourrait être réalisé en centre-ville et qui pourrait se faire sans avoir à peser sur les finances de la commune, comme très souvent on a tendance à faire peur aux électeurs.
Alors ça ferait, vous ferez 3 coups avec une seule opération, en fin de compte, parking, commerce et appartement.
Absolument. Logement, quoi. Je disais tantôt, pour qu'un centre-ville soit, pour que les gens se réapproprient le centre-ville, il faut qu'il soit à la fois agréable, donc c'est par un traitement piéton, mais il faut aussi qu'il soit attractif. Alors attractif, il peut l'être de 2 façons. On peut avoir une attractivité commerciale. C'est indispensable. Un centre-ville sans boutique est un centre-ville sans vie qui n'est plus guère attractif. Donc on pourrait avoir cet espace-là sur lequel il y aurait des espaces commerciaux, mais on peut aussi, on a rencontré un certain nombre d'investisseurs, on peut aussi développer l'espace commercial sur le boulevard Bonfils. À partir du moment où on le traite de façon piétonne, avec des grands trottoirs sur les parties latérales, on peut très bien imaginer, et on en a rencontré, des investisseurs qui seraient intéressés pour acheter des remises, pour acheter des locaux qui sont aujourd'hui désaffectés et y créer des bars, des restaurants, des boutiques de toutes sortes, ce qui viendrait par là même accroître l'espace commercial dans tout le centre-ville. Je disais que pour que le centre-ville soit attractif, il faut un espace commercial, c'est bien mais ça n'est pas suffisant, il faut également des pôles culturels. Alors dans les pôles culturels, on aura bien sûr celui qui va être initié par le conseil général, qui va se trouver sur l'emplacement de la Sica Racine et qui comporte notamment un cinéma et des salles de spectacle, mais on souhaiterait aussi implanter en plein cœur du centre-ville, au lieu dit les Arcades, une maison du pays saint-maximinois qui aurait pour vocation de récupérer toute la mémoire locale, c'est-à-dire aussi bien les archives municipales que les archives que possèdent les particuliers, tout numériser pour que tout puisse être à la disposition à la fois des chercheurs qui s'intéressent à l'histoire et au patrimoine de la commune, mais aussi aux touristes qui pourraient trouver là des maquettes de sites historiques qui se trouvent à Saint-Maximin ou dans les communes environnantes, et puis également pour les nouveaux Saint-Maximinois qui souhaitent se réapproprier l'histoire de la commune. À côté de cela, à quelques dizaines de mètres, nous avons un autre projet qui consiste à créer une université du temps libre qui permettrait à des gens de se retrouver là, dans des groupes de travail, qui pourraient permettre de suivre des cours d'apprentissage des langues vivantes, d'apprentissage de la taille et de la greffe, d'apprentissage de la couture, de la cuisine, comme ça se fait aujourd'hui dans la commune d'Aubagne avec un fort succès, et qui pourrait un peu remplacer l'université populaire qui a aujourd'hui disparu et qui existait autrefois dans les locaux du couvent royal. J'aimerais terminer quand même par un autre point. Je pense que pour que le centre-ville soit animé, il est aussi indispensable d'y organiser tout au long de l'année, et plus particulièrement dans la saison estivale, des manifestations culturelles. Il y a un lieu que nous avions racheté en 1992 et qui était destiné à cela. Il s'agit du jardin de l'Enclos. Et c'est avec beaucoup de peine que j'ai appris il y a quelques années qu'il a été revendu au Conseil Général. Aussi longtemps que le président du Conseil Général sera un élu de Saint-Maximin, cela ne posera pas trop de problèmes. Mais on peut légitimement se poser la question, d'ici quelques années, lorsque le président du Conseil Général sera un élu d'une autre commune et que lorsque le maire de Saint-Maximin sera différent, dans quelles conditions on pourra continuer à utiliser cet espace majeur, à la fois pour des manifestations culturelles, mais aussi comme un jardin public, car il n'y a absolument rien aujourd'hui, non seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants dans le centre-ville.
Alors ça, c'est le projet que vous avez pour ce centre-ville. On a compris que financièrement, le parking, il peut se faire et s'autofinancer tout seul. Mais tous les autres projets que vous avez, comment vous pouvez le financer? Alors là, ça intéresse nos concitoyens.
Alors effectivement, j'ai lu ce matin sur le blog de mon concurrent que nous proposions un catalogue de promesses par cela même qui, en 89, avait amené Saint-Maximin au bord du gouffre avec l'intervention de la Chambre régionale des comptes. J'en passe les meilleurs. Alors, de ce côté-là, effectivement, on peut être au moins tranquille. Si on compare les projets, celui de mon concurrent peut se résumer à continuer ensemble à goudronner les chemins. Donc, si on compare le nôtre à celui-là, effectivement, il peut apparaître comme pharaonique. Mais je pense que nous avons suffisamment communiqué sur le plan financier pour pouvoir rassurer les contribuables. Alors, je viens de vous parler du parking souterrain. Je vais aussi dire quelques mots de notre projet qui est souvent mis sur la sellette. Il s'agit de la piscine couverte. C'est un projet que l'on avait déjà évoqué lorsque j'étais élu en 1989. À cette époque-là, j'avais considéré qu'il n'était pas raisonnable de vouloir construire une piscine couverte à Saint-Maximin compte tenu des coûts. On m'a posé la même question il y a à peu près un an lorsque nous avons mis en ligne un blog pour pouvoir échanger avec le maximum de Saint-Maximinois. C'était une demande récurrente de la plupart. Donc nous avons examiné les coûts, nous avons un peu regardé ce qui se passait ailleurs, nous avons consulté des entreprises de construction, notamment deux groupes Zeller et HSB, qui sont un groupe allemand et un groupe autrichien. Il s'avère que la construction d'un bassin de 25 mètres inox et de 20 mètres de large, 8 lignes d'eau, coûterait à peu près 400 000 euros. La construction de la couverture pourrait se monter, on l'a fait chiffrer par un architecte, à 2 millions d'euros, ce qui mène un projet à 2 400 000 euros hors taxes, je précise hors taxes, car la commune récupère la TVA sur les investissements. Là-dessus, si on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, eh bien on peut estimer que nous pourrions bénéficier à peu près de 50% de subventions, ce qui ramènerait le coût global à 1 200 000 euros. Si on effectue cette opération dans le cadre de la communauté de communes, ça ramène à la participation de Saint-Maximin à environ 700 000 euros, ce qui représente, emprunté sur 20 ans, des annuités de 60 000 euros par an. Si je compare ça, bien que la destination ne soit pas tout à fait la même, mais au coût aujourd'hui de la patinoire, qui est environ de, c'est le coût qui a été évoqué par le conseil municipal, à 82 000 euros, sans tenir compte des dépenses ni de personnel ni d'énergie, ce qui veut dire qu'en réalité, pour 3 semaines, on doit dépenser à peu près 100 000 euros, eh bien, 60 000 euros pour une piscine à l'année, ça me paraît tout à fait raisonnable. Alors, les esprits chagrins nous diront, c'est vrai pour l'investissement, mais ce qui coûte très cher et ce qui est une catastrophe, c'est le fonctionnement. Eh bien, du fait que cette piscine est prévue suivant les normes haute qualité environnementale, faisant appel notamment largement au solaire, que le bassin de 25 mètres est en inox, ce qui facilite largement le nettoyage, que nous avons incorporé dans le projet une cafétéria et une salle de musculation qui pourraient être mises en gérance et donc générer des recettes de fonctionnement. On pourrait également louer des lignes d'eau d'aquagym pour les bébés nageurs ou autre opération. Et on pourrait redéployer pour une bonne partie du personnel communal. Eh bien, je pense que les dépenses de fonctionnement ne seraient pas du tout aux coûts qui ont été présentés par nos concurrents, ou par notre concurrent plus précisément. Alors, pour vous donner un exemple, j'ai relevé le coût de la piscine qui est en train de se construire dans la commune de Guignon. Le projet a estimé à plus de 2 millions d'euros hors taxes, ce qui correspond à peu près et même est inférieur à celui que nous avions évoqué de 2 400 000. Il a été subventionné par le département, par la région, par le Centre national pour le développement du sport. Et il reste aujourd'hui, pour la ville de Guignon, 44,2% à financer, ce qui correspond tout à fait à ce que j'indiquais pour nous, puisque je parlais de 50%. Donc là encore, si ça a été fait dans une autre commune, pourquoi ne serions-nous pas capables de le faire, nous, à Saint-Maximin ?
Bien, merci pour ces explications. On a encore quelques petites minutes pour terminer, peut-être sur la finance, si vous avez encore des choses à dire, ou vous terminez pour conclure ce rendez-vous.
Alors, je voudrais terminer sur l'aspect encore financier. J'ai connu Saint-Maximin il y a une vingtaine d'années, où les nouveaux arrivants étaient essentiellement provenaient de la périphérie marseillaise. Ils produisaient peu de rentrées fiscales car ils achetaient des terrains sur lesquels se trouvaient des cabanons qu'ils aménageaient progressivement pour le week-end. Et tout ça ne faisait rentrer qu'assez peu d'argent dans les caisses de la commune et tout naturellement on considérait que Saint-Maximin est une commune pauvre. Ceci dit, aujourd'hui, le taux des trois taxes qui pèsent sur les contribuables, qui sont la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sont plus élevés que les moyennes départementales et nationales. Ceci s'applique sur des valeurs locatives brutes qui sont très importantes, ce qui permet d'avoir un produit fiscal important. De plus, la population augmentant chaque année, cela génère des recettes nouvelles. On peut se poser légitimement la question de savoir où passe cet argent. Alors j'ai regardé la configuration des comptes administratifs des 5 années précédentes et j'ai pu constater que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 30% en 5 ans et que la masse salariale a aussi augmenté de 30% en 5 ans. Ce qui veut dire que systématiquement, toutes les nouvelles rentrées fiscales sont absorbées par le fonctionnement. Je suis convaincu qu'il faut renverser cette tendance. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut absolument accroître l'autofinancement du budget pour financer les grands équipements dont la commune a besoin. Et je suis persuadé que c'est possible en gérant autrement. De nombreuses communes de la taille de Saint-Maximin n'ont pas un premier adjoint président du Conseil général et parviennent néanmoins à financer un cinéma, une salle de spectacle, une piscine. On peut se poser la question de savoir pourquoi on n'est pas capable d'y arriver à Saint-Maximin. Alors pour conclure, je voudrais remercier mes concurrents du premier tour, messieurs Anfray, Bazaco et Siantar, qui se sont retirés et nous ont laissé par là même de véritables chances de succès. Néanmoins, je suis bien conscient de la difficulté de la tâche qui s'annonce pour le deuxième tour. Pour être élu, il va falloir mobiliser toutes les énergies de tous ceux qui le souhaitent, de tous ceux qui souhaitent véritablement que les choses changent. Ça ne sera pas facile, mais tous ensemble, nous allons pouvoir y arriver. Pour la première fois depuis fort longtemps, l'alternance est à portée de main. Ne gâchons pas cette opportunité. Je compte sur vous tous. Merci et à dimanche.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur De Canis. Alain, candidat, je rappelle, au municipal de Saint-Maximin, qui donc vous attend pour le second tour. Je rappelle qu'au premier tour, monsieur De Canis a réalisé 19,96%. Voilà, nous avons terminé cet entretien avec notre candidat. On va retrouver dans quelques instants la musique. On vous souhaite une très très bonne journée à tous et à toutes. Et demain, nous avons rendez-vous avec monsieur Alain Pénal.